Et le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À front renversé, quand Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Macron, la candidate du peuple contre l'oligarchie. Voilà ses mots hier soir en meeting. On va les entendre dans un instant. En face à un nouveau soutien pour son adversaire, François Hollande appelle à voter Macron. Et puis il avait prévu une campagne crépusculaire. Votre invité Nicolas nous dira ce qu'il pense de cet entre-deux-tours.
Oui, il est historien, sociologue, professeur émérite au Collège de France. Pierre Rosanvallon au micro de France Inter dans une grosse vingtaine de minutes. Il dialoguera avec vous, amis auditeurs. 01 45 24 7000 et l'application France Inter.
Touché, coulé, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, fierté de la nation, très certainement anéanti par un missile ukrainien. Nous serons à Moscou, aux États-Unis, où le patron de la CIA redoute toujours que Vladimir Poutine utilise ses armes nucléaires, et à Kiev, où la vie quotidienne a repris ses droits. Dans ce journal aussi, la vérité de Salah Abdeslam au procès des attaques du 13 novembre. Il ne s'arrête plus de parler. Et les 100 ans des saxophones Selmer fabriqués à Mantes-la-Ville. Les jazzmen du monde entier ont soufflé dans leur cuivre.
France Inter.
Diaboliser l'adversaire, chacun s'y emploie dans ce marathon de l'entre-deux-tours présidentiel. Des mots qui cognent, des programmes qui s'entrechoquent. L'offensive d'hier soir est signée Marine Le Pen en meeting à Avignon. Élodie Forêt est en croisade contre Emmanuel Macron.
Une veste rouge vive sur ses épaules. Marine Le Pen monte sur scène et descend dans l'arène. Face à Emmanuel Macron qui l'attaque depuis le début de la semaine, cette fois il s'agit de rendre les coups.
Je le dis avec gravité. Un candidat à la présidentielle au second tour ne devrait pas se comporter ainsi.
S'amusant même à renverser le front républicain, appelant à faire barrage contre son adversaire.
Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance. Ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns.
Un discours aux accents ultra-populistes. À plusieurs reprises, Marine Le Pen s'emporte contre l'oligarchie, opposant bloc élitaire et bloc populaire, accusant aussi le gouvernement de perdre tout sang-froid devant sa potentielle victoire. Jean-Michel, policier retraité, acquiesce et pointe, lui, la responsabilité des médias.
C'est toujours pareil, les médias maintenant sont dessus comme la vérole sur bas clergé.
Des militants qui défendent bec et ongle leur candidate, inquiets malgré tout de l'effet de cette rediabolisation.
Et face à elle, Emmanuel Macron a donc reçu le soutien d'un autre ancien président hier soir, après Nicolas Sarkozy. C'est François Hollande qui appelle à voter pour lui.
Je sais que dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Si Marine Le Pen arrivait à l'Élysée, il y aurait trois remises en cause fondamentales. La première, ça serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France. Puisqu'elle envisage de changer la constitution du général de Gaulle. Le quart serait changé sur les questions de nationalité, les questions de discrimination, les questions même d'identité. Ensuite, la deuxième remise en cause, c'est l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et la troisième remise en cause, c'est le système d'alliance. Madame Le Pen, si elle arrivait aux responsabilités du pays, considère que la Russie est un allié. La Russie de Vladimir Poutine, celui qui massacre en ce moment en Ukraine, est un allié possible. C'est pour ça que je dis, dire simplement pas une seule voix pour Madame Le Pen est insuffisant.
François Hollande hier soir sur TF1, et puis ni Macron ni Le Pen, slogan de ralliement de quelques étudiants depuis deux jours, mobilisés à Nancy, à Reims et à Paris, où la Sorbonne a retrouvé son calme cette nuit. Les derniers étudiants qui l'occupaient sont partis vers minuit, après une journée agitée dans le quartier latin. Et comme chaque matin, comparons les propositions des candidats. Quelle agriculture veulent-ils dans un contexte difficile, inflation et guerre en Ukraine? Bonjour Maria Melchiorre.
Bonjour.
Un point d'accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux veulent renforcer notre souveraineté alimentaire, mais comment ?
Eh bien, pour Emmanuel Macron, comme pour Marine Le Pen, ça passe d'abord par la préservation des surfaces agricoles face à l'urbanisation. Ça passe aussi pour le président candidat par des investissements visant à réduire les dépendances à des produits importés, les engrais ou encore le soja brésilien. Emmanuel Macron compte intensifier le plan protéines végétales lancé il y a deux ans grâce à des fonds européens et français, développer les cultures de colza, de tournesol par exemple. Il souhaite faire la même chose avec les fruits et légumes, plus de la moitié sont importés actuellement. Marine Le Pen, de son côté, compte stopper les importations non européennes autant que possible. Elle souhaite exclure l'agriculture des traités multilatéraux de libre-échange. Elle insiste, pas question de ratifier le traité CETA qui doit lier l'Union européenne et le Canada. Non également à la poursuite de 3 autres projets en cours de négociation entre Bruxelles et respectivement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mercosur en Amérique latine.
Et tous les deux, Mariam, mis sur la production locale ou au moins européenne.
Oui, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen propose des clauses miroirs pour que les produits agricoles importés respectent les normes françaises et européennes. Les deux candidats sont pour les circuits courts et Marine Le Pen fixe un objectif ambitieux, 80% de produits locaux dans les cantines d'ici 5 ans.
Mariam El Kurdi ce matin dans le comparateur du 8h.
Il est 8h06, c'est un camouflet pour la Russie, Florence, qui pensait régner sur la mer Noire.
Son navire amiral, le Moskva, a donc coulé cette nuit au large d'Odessa. Officiellement victime d'un incendie, selon Moscou, le bateau a plus probablement été touché par un missile ukrainien. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Russie, où l'on peut parler, Sylvain, d'un naufrage de la fierté nationale.
Clairement, le premier nom de ce navire, c'était Slava, la gloire en russe, lorsqu'il avait été lancé sous l'Union soviétique, avant d'être modernisé à plusieurs reprises et baptisé du nom de la capitale russe, Moskva. Alors, la perte de ce navire est un coup dur parce que, évidemment, c'était un élément essentiel de la supériorité maritime des Russes en mer Noire. Ceci dit, stratégiquement, il est possible que cela ne soit pas aussi important que cela, en tout cas de façon immédiate, puisque la grande opération amphibie qui semblait avoir été envisagée ne semble plus à l'ordre du jour. Moscou a annoncé que le Donbass, donc une opération terrestre essentiellement, et sa priorité dorénavant. En revanche, symboliquement, oui, c'est une perte immense. Le Moskva avait participé à toutes les campagnes récentes de la Russie, la guerre en Géorgie, la Syrie. Son équipage avait été décoré par Vladimir Poutine, qui recevait parfois à bord ses invités d'honneur. Un navire de cette taille qui sombre, c'est très rare et c'est un camouflet, clairement, pour la Russie.
Et quelles peuvent être les représailles, Sylvain ?
Alors officiellement pour l'armée russe c'est un accident, donc il ne peut pas y avoir de représailles pour un accident, mais depuis hier malgré tout, Moscou accuse Kiev de mener des opérations en territoire russe, ce que les Ukrainiens contestent et qui est invérifiable, mais du coup le Kremlin menace maintenant de bombarder des centres de décision ukrainiens comme l'état-major à Kiev, ce que l'armée russe s'était abstenue de faire jusque-là.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou ce matin, et en parlant de représailles, revoilà le péril nucléaire de nouveau évoqué aux États-Unis par le patron de la CIA, William Burns, pour qui les échecs militaires de Vladimir Poutine pourraient l'inciter à passer au stade nucléaire en Ukraine.
Nous sommes évidemment très inquiets. Je sais que le président Biden est très soucieux d'éviter une troisième guerre mondiale, d'éviter un seuil à partir duquel un conflit nucléaire devient possible. Mais étant donné le désespoir potentiel du président Poutine et des dirigeants russes, étant donné les revers qu'ils ont subis jusqu'à présent sur le plan militaire, aucun d'entre nous ne peut prendre à la légère la menace que représente un recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou à des armes nucléaires de faible puissance.
William Burns qui ajoute, et c'est rassurant, qu'aucun signe concret n'a été constaté pour l'instant sur le front nucléaire. Traduction assurée par Sébastien Paour. Et pendant ce temps-là, la vie qui ne s'est jamais vraiment arrêtée à Kiev est presque redevenue normale depuis le départ des Russes de la région. L'ambassade de France, délocalisée dans l'ouest à Lviv, va s'y réinstaller, annonce du Quai d'Orsay hier soir. Et le quotidien a repris ses droits dans la capitale, comme chez ce coiffeur barbier. Voici le reportage de Faustine Calmel.
Dès l'entrée, le bruit des ciseaux qui s'entrechoquent et au bac à shampoing, Dmitro, chevelure noire et barbe mal taillée. C'est vraiment une nécessité là, s'amuse le jeune homme rentré à Kiev il y a un mois.
Tu ne peux pas seulement penser aux mauvaises choses, il faut apporter, je ne sais pas moi, un peu de lumière. Tu dois faire des blagues, prendre du bon temps, parler de tes loisirs, des choses comme ça. Certains ont honte, ils se disent « comment je peux boire un café alors que des gens se font tuer à Mariupol chaque jour ?» Mais ne pas boire de café ne va sauver personne, c'est pareil.
À l'accueil, Daria, longue chevelure blonde, approuve.
Si on arrête de prendre soin de soi, on va devenir dépressif, hystérique et paniqué. Évidemment, ce n'est pas parce que tu viens te faire coiffer que la guerre va se terminer. Mais pendant une heure ou une demi-heure, tu peux parler avec ton coiffeur et recevoir du soutien si tu es seul.
Mais même ici, dans les profonds fauteuils en cuir, la guerre n'est jamais loin, reconnaît cet autre client.
Tout le monde en parle, dans les magasins, dans les supermarchés. Il suffit de regarder par la fenêtre pour voir des soldats et du matériel de guerre. On ne peut pas ne pas y penser.
Un homme en treillis pousse la porte. Ici, depuis le début de la guerre, c'est gratuit pour les militaires, nous glisse Daria.
Voilà, Kiev, où se trouve Faustine Calmel, la capitale a reçu la visite d'Anne Hidalgo hier, candidate malheureuse à la présidentielle. Elle a remis à son maire Vitali Klitschko la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. En Israël, des heurts ont eu lieu ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Manifestants palestiniens contre policiers israéliens, 7 blessés dans un climat éruptif depuis quelques semaines. Attaque en Israël, suivie d'opérations de contre-terrorisme en Cisjordanie où 3 Palestiniens ont été tués hier. Au procès des attentats du 13 novembre, il ne s'arrête plus de parler. Salah Abdeslam s'est encore longuement expliqué hier au tribunal de Paris et s'est directement adressé aux victimes des attaques. Compte rendu d'audience, signé Charlotte Piret.
C'est d'abord le récit d'une scène incroyable, celle d'un taxi qui roule dans la nuit du 13 novembre sur le siège arrière. Salah Abdeslam, sa ceinture explosive encore sur lui, il vient de renoncer à la déclencher, explique-t-il à l'audience. À la radio, les premières informations sur les attentats. Le chauffeur m'a dit que ça allait retomber sur tous les musulmans, raconte encore Salah Abdeslam. Et ce bilan qui s'alourdit de minute en minute, à chaque fois, ça a augmenté ma détresse, poursuit l'accusé. Qui dit encore sa compassion pour les personnes décédées. C'est difficile de se dire qu'on est en partie responsable de ça, mais aussi... plus hésitant cette fois. Dans les victimes qui ont témoigné, j'en ai vu qui sont ressorties plus fortes de ces épreuves. À ces propos, la salle se tend subitement, un brouhaha s'élève. Ne laissez pas la rancœur et la haine envers moi vous dévorer, ajoute l'accusé calmement. Vous avez la possibilité de pardonner, d'avancer et peut-être de me donner la chance de retrouver un jour ma famille. Jamais, hurle alors un survivant des terrasses. Salah Abdeslam baisse la tête. J'entends votre colère et votre haine.
Charlotte Piret et Salah Abdeslam continuera à être interrogé aujourd'hui, notamment sur les contradictions de ses déclarations. Il a dit avant-hier qu'il aurait dû se faire exploser dans un café du 18e arrondissement, projet dont il n'avait jamais parlé jusque-là. Une enquête préliminaire ouverte après les déclarations des étudiantes de l'école polytechnique. Dans un questionnaire, 1 sur 4 dit avoir été victime d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité. 11 élèves disent même avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. 3,5% d'augmentation. Voilà ce que propose Amazon à ses salariés qui en réclament 5. C'était hier la dernière séance de négociation. Les syndicats jugent l'offre inadmissible et prévoient de nouvelles sanctions. Amazon emploie plus de 15 000 personnes en France.
France Inter, il est 8h13. C'était il y a 3 ans, Florence, l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Et journée particulière cette année puisque pour les chrétiens, c'est vendredi saint, 3 jours avant Pâques. Et pour célébrer cette date de la liturgie, le diocèse catholique de Paris organisera un rassemblement de fidèles sur le parvis. C'est la première fois depuis l'incendie, une méditation. Rémi Brancato pour renouer avec le culte qui devrait pouvoir de nouveau s'exercer dans 2 ans dans la cathédrale.
Ce n'est pas encore une messe à Notre-Dame, mais l'archevêque Georges Pontier ira prier ce matin dans la nef 1 dizaine de minutes au milieu des échafaudages avec le recteur de la cathédrale, Patrick Chauvet. Car ce vendredi saint, signe d'espoir, commémore aussi le drame de l'incendie il y a 3 ans.
C'est un petit clin d'œil du Seigneur.
Patrick Chauvet invite les fidèles à se rassembler ensuite pour une méditation sur le parvis. C'était impossible jusqu'ici en raison du plomb puis de la pandémie.
Ça va être le premier rassemblement où les fidèles peuvent venir. Nous espérons qu'on pourra rentrer dans la cathédrale. On approche de la porte.
Prier à nouveau dans la cathédrale, les fidèles le demandent, confirme Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame.
Beaucoup de gens continuent à nous demander, bien sûr, quand est-ce qu'on pourra rentrer.
La Fondation a lancé en décembre un nouvel appel aux dons du diocèse, cette fois pour aménager l'intérieur de Notre-Dame, notamment pour la liturgie.
Nous avons un besoin de 6 à 7 millions d'euros. Nous avons déjà trouvé entre 20 et 30% de cette enveloppe. Le moment de Pâques pour les chrétiens, c'est la résurrection. Et ce à quoi on travaille, c'est, on ne dit pas la résurrection de Notre-Dame parce qu'elle n'est jamais morte, mais nous disons plutôt revivre Notre-Dame.
En 2024, le diocèse de Paris promet une cathédrale plus belle encore, un nouvel autel, un baptistère et une entrée par le Grand Porche.
Et en attendant, le chantier sera visité par Emmanuel Macron sous sa casquette présidentielle aujourd'hui. Enfin voilà du Made in France qui s'exporte dans le monde entier depuis 100 ans que fêtent aujourd'hui les saxophones Selmer. Ils ont connu le souffle de Coltrane ou de Wayne Shorter, référence des plus grands musiciens. Ces instruments sont toujours fabriqués à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Visite guidée, signée Sébastien Sabiron.
De ces 22 000 mètres carrés d'atelier sortent chaque année 10 000 saxophones qui prennent forme dès la chaudronnerie.
Donc là, c'est une pré-découpe, une pré-forme. On est formé à passer estampé, s'écombrer, c'est soudé.
Christophe Deleuze, technicien d'atelier.
On a quand même pas mal évolué, rien qu'au niveau machine. On a une forte demande, donc il faut qu'on produise mieux, avec plus de quantité, on va dire.
400 étapes, plus de 600 pièces différentes. La fabrication d'un sax mobilise 16 corps de métier pendant au moins 35 heures. Ici, Philippe donne sa courbure au bocal d'un saxophone.
C'est une fierté, quelque part. On se dit, voilà, je fais des pièces qui sont appréciées par les plus grands. Comme là, récemment, lancé un saxophoniste de Johnny Hallyday. C'est impressionnant.
Mais le plus grand ambassadeur de la marque reste John Coltrane, qui a enregistré son chef-d'œuvre A Love Supreme sur un Selmer. Avec un ticket d'entrée à 3500 euros, Selmer demeure une marque d'exception. Son président Thierry Oriès veut s'ouvrir à de nouveaux marchés.
Il y a encore des zones que nous ne travaillons pas, comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique, qui sont des zones où il y a à la fois beaucoup de musiciens avertis et aussi des nouveaux courants musicaux. Donc c'est important d'être présent aussi.
Et la marque a pu compter sur un petit coup de pub depuis l'espace grâce à l'astronaute français Thomas Pesquet qui a joué sur un Selmer dans la Station Spatiale Internationale.
Bon, c'est pas Coltrane, mais en même temps, on peut pas tout faire.
Mais lui, il fait tout. Hein. Florence Paracuelos, merci. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Et la journée, Stéphanie, rythmée par le soleil.
Et c'est une symphonie lumineuse qui s'exprime très largement sur l'ensemble de l'Hexagone. Quelques bémols ponctuent tout de même la journée. Près de la Manche, des nuages bas retardent l'arrivée du soleil. Et puis au sud de la Garonne, jusqu'au midi toulousain, dans les vallées alpines et auvergnates, le temps reprend le thème, celui de la grisaille. Cet après-midi, la partition du ciel se compose en mode majeur avec quelques syncopes nuageuses sur la moitié nord, comme sur les Pyrénées, où une averse n'est pas exclue sous les nuages les plus charnus. Mais au bord de la Grande Bleue, Mistral et Tramontane se chargent de mettre les nuages en sourdine par rafale de 50 km par heure.
Saxophone Selmer, les températures jouent la mélodie du printemps.
Et elles se mettent à l'unisson des 20 degrés, résonnent largement au-dessus des normales, avec une petite variante plus fraîche sous les grisailles côtières. La cadence générale s'organise cet après-midi autour des 19-24 degrés du nord au sud, voire localement 25-28 près de la Grande Bleue. Un léger décrescendo est entamé sous les nuages de la Champagne-Ardenne et du Massif central avec 14 à 17 degrés. Il fera 16 à Perros-Guirec, 19 à Beausoleil en Seine-Maritime, mais 22 à Paris jusqu'à 26 à Saint-Rémy-de-Provence.
Merci Stéphanie. France Inter, 8h17.